dans sa prochaine aventure, notre missionnaire va devoir se montrer encore plus ridicule dans son rôle d'imbécile chronique lorsqu'il va devenir un sujet d'intérêt pour une organisation terroriste qui possède des liens très étroits avec la secte d'Alba. Voici donc l'école de Lou Tapran. Demeurant immobile devant sa fenêtre de bureau, le directeur suivit d'un regard satisfait l'arrivée de ses premiers élèves de Lou Tapran. Deux hommes et deux femmes pénétrèrent dans cette vieille école de campagne afin d'y parfaire leurs connaissances dans le domaine du paranormal. C'était du moins leur intention lorsqu'ils répondirent favorablement à l'aimable invitation d'un professeur berlinois qui venait d'y ouvrir une petite école dans la région de l'Outaouais. En réalité, cet homme dirigeait un important mouvement terroriste infiltré dans toute l'Europe et l'Amérique. Sa mission consistait à utiliser les services d'un certain Fontenay d'Endor Pechel, véritable spécialiste des voyages dans le couloir intemporel. Puisque ce personnage résidait présentement dans l'Outaouais, l'organisation secrète se devait de venir lui tendre un piège afin de le forcer à collaborer dans un plan tout à fait diabolique. Le directeur fixa froidement un professeur qui venait d'entrer dans son bureau en affichant un sourire malicieux. « Ils sont là, mon colonel. Faites-moi le plaisir de ne plus m'appeler colonel aussi longtemps que nous serons au Canada. Il est inutile d'associer mon nom et mon école à une quelconque organisation militariste. » « Vous allez vous débrouiller, mon cher monsieur de Frappe, pour inciter vos élèves à s'intéresser à vos travaux scientifiques, pendant que j'irai cueillir moi-même ce voyageur à cervelle d'oiseau. Ne souriez pas. J'ai bien l'impression que notre homme n'a rien compris à la nécessité de s'instruire, même s'il vit sur Terre depuis le Moyen Âge. Il faut être vraiment idiot pour ne pas savoir lire et écrire après plus de 600 ans d'existence. Qu'a-t-il fait tout ce temps, mon... pardon, monsieur Von Reich? » C'est un missionnaire. C'est du moins ce qu'il prétend être depuis toujours. Nous savons peu de choses sur cet extraterrestre venu de l'ancienne planète de la constellation d'Orion. Vous souriez toujours. C'est pardonnable, puisque même les pseudo-spécialistes des petits bonhommes verts refusent de reconnaître que tel pitre peut se revendiquer d'avoir une telle origine. Mais vous-même, monsieur, il semble que cette idée ne vous fait pas sourire. Croyez-vous que cela puisse être possible? Je ne crois pas aux extraterrestres. Par contre, je ne peux nier que ce Pechel possède des dons particuliers. On affirme qu'il peut communiquer avec les animaux et surtout avec des êtres invisibles. Si cela est véridique, nous aurons besoin de ses services pour transporter notre arme secrète dans le couloir intemporel. Notre homme ressemble à un petit singe, n'est-ce pas? Un singe? Vous ne trouvez pas qu'il est assez mal fichu comme cela, sans lui attribuer des traits de singe? Non, je pense que je me suis mal exprimé, M. Von Reich. Voyez-vous, d'après un rapport secret allemand daté du 13 mai 1942, des ouvriers affirment avoir aperçu un étrange personnage apparaître près d'un char d'assaut qui venait à peine de sortir de l'usine. On mentionne qu'un petit homme ressemblant à un singe tournant un moment autour de l'engin en se maintenant en équilibre sur une boule ressemblant à un globe terrestre. Puis, tout à coup, l'instant d'après, le char disparut comme par enchantement. Aujourd'hui, on explique ce phénomène par un mot, téléportation. Moi aussi, j'ai lu et relu ce rapport plusieurs fois, mais j'avoue qu'il me laisse complètement froid. Pour répondre clairement à votre question, Fontenay de Nord-Péchel n'est pas un singe, mais un imbécile naturel. Pour être encore plus précis, il apparut à notre époque en 1949 et il y restera pour une période maximale de 84 ans. Nous savons qu'il a vécu également en Atlantide, puisque nous avons récemment découvert un manuscrit relatant son passage sur ce continent disparu. Sa dernière escapade dans le temps se situe à l'époque du Christ. Comment pouvez-vous affirmer qu'il vivra encore ce nombre d'années? Nous pensons que ce voyageur utilise une faille intemporelle qui lui apparaît à tous les 84 ans seulement. Logiquement, notre homme devrait attendre en l'an 2033 pour retourner dans ce passage. Par contre, grâce à notre canon destructeur de particules, nous l'aiderons à devancer son heure de départ. Le directeur se mit à rire entre ses dents en sortant lentement de son bureau. Il ne put s'empêcher d'ajouter « Je sais comment attirer notre homme dans notre école et surtout m'assurer de sa collaboration. Je ne crois pas qu'il persistera dans son entêtement lorsque nous l'aurons averti que cela coûterait la vie à quatre pauvres élèves de notre école. » un petit coup de peigne sur son îlot de poils crâniens, un autre sur la barbiche de chèvre. C'est tout ce qu'il lui fallait pour bien paraître devant son nouveau professeur d'école. Le plus beau jour de sa vie venait enfin d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Le miracle s'accomplit un beau matin de printemps, lorsque Fontaine de Lampéchelle réalisa qu'on venait de l'admettre à l'école de l'Outaprant. Il faut dire qu'il n'est pas donné à tout un chacun d'être illettré depuis le Moyen Âge. Depuis que le beau temps était arrivé, notre homme travaillait dans un cirque, comme clown suppléant. En attendant de remplacer quelqu'un qui n'était jamais malade, Péchel nettoyait les cages d'animaux. Même le roi des bêtes était un genre de minou qu'il fallait tirer par la queue pour le faire rugir. C'est là que notre employé fit une rencontre inusitée sous la personne de l'illustre professeur berlinois. « Vous êtes Fontaine-Denlard-Péchel ?» demanda l'homme en parlant dans un sourire entre les dents. Péchel se releva et, regardant droit dans les yeux l'homme entièrement vêtu de noir, répliqua timidement. « Vous me connaissez, monsieur ?»« Heinrich von Reich, directeur de l'illustre école de l'Outaprant. Notre institution privée est l'une des 10 plus grandes écoles de Berlin, vous savez. »« À Berlin, vraiment ?» Ainsi, dans l'Outaouais, vous dirigez une école où les gens apprennent à lire et à écrire. Bien sûr. Remarquez que cette institution est tout à fait spéciale, car ici, vous apprendrez à lire et à écrire en 3 semaines seulement. Évidemment, nos méthodes restent secrètes, mais nous travaillons à mettre au point une nouvelle technique qui nous permettra de le faire en 6 jours seulement. C'est d'ailleurs la raison qui m'amène ici, car nous recherchons des individus d'un certain âge, comme vous, qui n'ont pas eu la chance de s'instruire. Selon nos renseignements, vous seriez le candidat idéal pour apprendre à lire en 3 jours seulement. Hein, c'est fantastique! Ainsi, après 3 jours d'école seulement, je pourrais lire un Rabelais ou un Shakespeare sans problème. Il semble que c'est tout à fait probable, mon cher monsieur. De toute façon, dans le pire des cas, vous pourrez lire un Harlequin en quelques jours seulement. C'est déjà un début. Aimez-vous les romans d'amour? Bien entendu, mais en fait, combien cela va-t-il m'en coûter en frais scolaires, vous comprenez? Rien du tout, coupa le professeur. Je cherche un bon sujet d'expérimentation pour mes nouvelles méthodes d'apprentissage, et je sais que vous êtes notre homme. Si cela vous intéresse, présentez ce billet au conducteur de l'autobus scolaire qui ramasse tous nos étudiants à l'angle des rues Loi et Montcalm. L'autobus arrivera vers 7 heures. Assurez-vous d'apporter un crayon et du papier, n'est-ce pas? Et une pomme pour la création, demanda Péchel tout excité. On retrouve donc notre pauvre naïf le jour suivant, se tenant très droit à l'arrêt d'autobus, en tenant sa pomme dans la main droite et portant un petit sac d'écolier rempli à craquer de feuilles et de crayons aiguisés. Il avait plutôt l'air d'un jeune étudiant de la maternelle, avec son béret français, sa chemise blanche et ses culottes courtes. Il pleuvait, et le vent défit la jolie tourbe de cheveux coiffée avec tant de soin. L'eau lui entrait dans les oreilles à cause des voitures qui roulaient si joyeusement en éclaboussant notre étudiant de boue printanière. On peut dire que celui-ci avait fière allure avec son visage cupicoté, d'eau noire, et son sac qui gardait encore l'odeur de sa dernière demeure. Il faut dire qu'il l'avait trouvé dans les poubelles, juste après le départ du professeur. Qu'à cela ne tienne, un ancien clochard médiéval qui a attendu aussi longtemps pour apprendre est toujours heureux de s'afficher comme étant un vrai étudiant. Le nez en l'air, les pieds dans l'eau, la pomme devenue aussi noire qu'une boule de quille, tout cela aurait pu laisser croire que notre homme s'en allait à l'hôpital psychiatrique et non à l'école tellement il avait l'air fou. Pourtant, rien n'aurait incité Péchel à changer d'endroit, car il ne voulait pas que l'autobus scolaire parte sans lui. Même s'il gelait des cuisses, son cœur était bouillant d'émotions de toutes sortes. Mais que faisait donc l'autobus? Sacré nom d'un chien, gémit notre homme en voyant une foule d'autobus passer devant lui sans s'arrêter. Il est 10 heures et je vais être en retard pour la récréation. Aussi bien manger ma pomme maintenant. Attends, bonhomme, lui dit un vieux chien cotonneux en flairant le fruit d'un air piteux. Ne peux-tu pas la couper en deux? Qui es-tu? Lui demanda l'homme qui avait l'habitude que les bêtes lui adressent la parole. Frick, ancien compagnon de policier à la retraite, pour vous servir. Mon maître m'a amené faire un petit tour dans le bois afin de se débarrasser de moi. Comme j'étais de nouveau devant sa porte à son retour, Disons qu'il n'a pas apprécié ma visite. Ensuite, il m'a offert un os pour m'allécher, puis un autre qu'il a placé tout près des roues de son camion. Au moment où j'ai tenté de le saisir, j'ai entendu le son du moteur et n'ai eu le temps que de me sauver. Ce sans-cœur a voulu m'écraser et dire que je n'ai même pas eu le temps de renifler cet os, s'il était au steak ou au porc ou au poulet. C'est un ingrat, un hypocrite et un « wow, minute, mon ami ». Puis-je savoir pourquoi le maître décide tout à coup de se débarrasser de son chien fidèle? Bien, c'est que je n'étais plus tellement fidèle ces derniers temps. Il me demandait de garder la maison et j'en profitais pour aller faire des petites balades dans le quartier. Mon maître a dû venir me ramasser deux fois à la fourrière et trois fois dans la cour d'un voisin. Finalement, il fut très fâché lorsque j'ai mordu un de ses confrères. Vois-tu, il refusait de m'offrir un de ses beignes. Péchel secoua tristement la tête en disant, « Et ensuite? » Eh bien, je me suis sauvé lorsque j'ai réalisé que mon maître s'alignait pour me tirer une balle dans la tête. Ouais, ce n'est pas ce que j'appelle une histoire d'amour. Je veux bien te donner ma pomme rouge. Malheureusement, mon bras est figé à cause de la courroie de ce fichu sac d'école. Tu vas sans doute me trouver un peu curieux, mais où es-tu censé aller, vêtu comme un clown? Sur cette question, le chien sauta d'un bond sur la pomme et n'en fit qu'une bouchée. Notre homme lui répliqua d'un air frustré. « Tu te penses drôle. Tu te crois malin en te moquant de ceux qui vont à l'école. »« Bah, à ton âge, je suis certain que tu as fait trois fois le tour des études universitaires, » lui répondit Tricassé en jappant joyeusement. « Pour t'organiser de la sorte, tu dois sûrement être une sorte de psychiatre à la retraite. Tu sais, ces gens-là, à force d'avoir tellement de malades dans leur vie, finissent par leur ressembler. » « Merci du compliment, » se contenta de répondre l'homme songeur, qui se retourna en entendant le klaxon d'une voiture noire. « Je pense que ces gens veulent te parler. Mon flair de chien policier me laisse supposer qu'ils ont des armes. Crois-moi, j'ai du métier. »« Tu blagues. Je vois mon professeur de l'illustre école de Louis Tapran. Alors, tu veux bien m'excuser, mon brave ami? Je suis déjà assez en retard sur mes cours de lecture rapide. » L'animal vit son nouveau copain monter dans la voiture et celle-ci disparut rapidement en clissant des pneus. « C'est pas normal, ça, » se dit le chien en jappant nerveusement. « Ce gars-là est gentil, je me dois de veiller sur lui. Allons-y pour une petite trotte discrète. » Frick suivit la voiture en courant entre les poubelles et les voitures stationnées. Il bouscula quelques passants qui ne se poussaient pas assez vite sur le trottoir, sans perdre de vue qu'il ne devait surtout pas se faire voir. De son côté, notre pauvre étudiant demanda à son professeur pourquoi l'autobus scolaire n'était pas encore passé. L'autre se contenta de répondre furtivement que, vu que celui-ci était en panne, il avait préféré venir le prendre personnellement ce matin. Péchel regarda les deux hommes assis de chaque côté de lui et le chauffeur. Ils avaient tous des visages de boxeurs. Une petite voix insidieuse en lui se fit entendre. « J'ai bien l'impression que tu viens de te mettre les deux pieds dans les plats. Regarde ton supposé professeur. Ne trouves-tu pas qu'il ressemble étrangement à ces monstres des camps de concentration nazis? Et que dire des trois autres? Ils ont plutôt l'air de gros mercenaires et tortionnaires que de simples professeurs, tu ne crois pas? » Fontenay, Denlor, Péchel sentit des frissons trop bien connus de lui. Il savait qu'il était trop tard pour leur fausse compagnie. Mieux valait jouer à l'innocent. Heureusement qu'à ce jeu-là, notre homme n'avait nul besoin de maître pour lui enseigner comment faire l'insensé. Oups, j'avais amené une belle pomme pour ma collation, mais dans ma peur d'être oublié dans le coin de la rue, je... Vraiment, le coupa le pseudo-professeur en le regardant droit dans les yeux, celui-ci étant assis en face de lui dans la limousine et surveillant ses moindres gestes. Quoi, vous l'avez mangé? « Ben, il était plus de 10 heures et je ne pense pas que vous m'auriez autorisé à manger en classe. »« répondit sommairement son vis-à-vis. « Il y a beaucoup d'élèves dans votre école. »« Pas vraiment, Monsieur Péchel, » répondit Von Reich d'une voix glaciale, pour ne pas dire peu humaine. « Nous préférons avoir la crème des sujets. Par contre, je suis convaincu que vous adorerez Louis Tapran, » conclut le maître d'une voix sarcastique. « Je suis de votre avis, » répliqua Péchel en souriant candidement. En regardant dehors, notre étudiant vit la voiture prendre un chemin de campagne. Il se débattait dans un langage intérieur où l'idée se précisa que le jour où il pourrait apprendre à lire et à écrire n'était pas encore arrivé. C'était un autre tour du destin. Il savait pertinemment qu'il n'avait pas s'en étonner. Il se dit que c'était trop beau pour être vrai et se demanda ce que voulaient ces gens pour avoir osé le piéger de cette manière. Chose certaine, son intuition lui indiqua qu'il le connaissait probablement mieux qu'il le supposait au départ. Mais où conduisait-on notre homme? Il lui vint cette tentation de jouer au guide devant ces étrangers, mais devant leur air fermé, il décida de laisser son esprit vagabonder, en se représentant comment il pourrait présenter son petit coin d'accueil. Pour ceux qui ne connaissent pas Hull, cette ville est apparue assez particulière aux yeux de Péchel, car elle fait face à la capitale du Canada, pays reconnu pour être plus anglophone que francophone, bien que ses dirigeants se targuent de le présenter à l'extérieur comme étant bilingue. C'est du moins ce que les habitants de la région avaient expliqué à notre voyageur. Ils affirmaient qu'il leur fallait beaucoup de courage pour maintenir leur langue française et leur culture. D'ailleurs, plusieurs humoristes représentaient les Québécois comme étant des descendants de ces Celtes que tout le monde connaissait sous le nom de Gaulois si farouches. Péchel se disait que Hull avait un cachet assez particulier et très attachant, car elle était la seule ville frontalière entre le Québec et l'Ontario à pouvoir se vanter d'avoir un moulin à papier qui voisine le grand musée des civilisations canadiennes, qui fait face à un grand hôtel appelé Ramada Inn, lui-même situé près d'un grand complexe d'édifices fédéraux et provinciaux. À quelques minutes à peine de ce système de tentacules, où Péchel avait visité une profusion de bars, un immense parc magnifique appartenant au fédéral côtoyait l'Université du Québec, une prison et un ancien orphelinat transformé en centre de ressources pour déficients intellectuels. Tout cela se situait à quelques pas d'un parc historique qui aurait pu servir de débarcadère aux canaux de jadis, aux abords de la rivière Outaouais, dont cinq ponts relient les deux rives. Péchel se laissa envahir par d'autres images. Ah oui, il y avait aussi Elmer, à l'ouest de Hull, à l'allure très anglaise, avec ses terrains de golf, ses résidences d'ambassade, et assez recherchées pour ses régates. Plus à l'est, il y a Gatineau, ancienne ville de famille de bûcherons, qui s'est développée très rapidement. Elle aussi accueillait des milliers de gens pendant son festival de Montgolfière, où le modernisme de ville récente prenait un petit air vieillot en septembre sous la multitude de ballons multicolores. Mais là, la voiture prenait plutôt la direction du nord. Allait-on se rendre en Abitibi ou à la réserve indienne de Maniwaki? Maintenant, notre homme a pu apercevoir au loin le petit train à vapeur qui faisait navette entre Hull et Wakefield et qui servait lui aussi d'attraction touristique. La voiture ne se rendit pourtant pas au terminus du petit train, dommage. Tout d'un coup, elle se promena dans une série de petits chemins et s'arrêta dans une ancienne carrière où notre ami aperçut une vieille école rustique datant des années de colonisation. Du moins, c'est ainsi qu'elle apparut à ses yeux, entourée d'un bois à demi défriché. La voiture s'arrêta et les deux gorilles sortirent Péchel par le chignon du cou. « Attendez, voyons, cria celui-ci en suffoquant. » « Je sais bien, je suis en retard à mes cours, mais est-ce une raison pour m'envoyer chez le directeur? » Lâchez-le, j'attends Von Reich en descendant de voiture. Monsieur Péchel est capable d'entrer sans faire d'histoire, n'est-ce pas, monsieur? » « Écoutez, monsieur le directeur, j'ignorais qu'on molestait les étudiants dans votre école. Je me verrai dans l'obligation d'en faire part aux autorités scolaires si cela se répète. Il y a des lois qui nous protègent ici, au Canada. » « Mais non, mon cher ami, ces deux professeurs ne voulaient que vous aider à sortir de la voiture, » lui répondit Von Reich en souriant. « Venez, voyons, je vais vous présenter aux autres élèves. » Préférant sans doute utiliser des méthodes plus douces envers lui, Von Reich lui plaça sa main sur l'épaule et le conduisit ainsi dans un modeste local, où deux hommes et deux femmes écoutaient distraitement un exposé sur des phénomènes paranormaux. Le professeur pointait sur un schéma une partie d'un cerveau humain en disant « C'est au niveau de ces neurones que se produit la surcharge de courant psi. » Vous constaterez que dans ce document réalisé en 1942, à quel point nos recherches se révélèrent fructueuses à cet égard. Il nous fallait prévoir encore une dizaine d'années pour aboutir au parfait contrôle de cette fantastique énergie psychique, Malheureusement, la fin de la guerre mit un terme à nos expériences cliniques des plus intéressantes. Nous, l'homme s'arrêta lorsqu'il vit Von Reich désigner une place au nouvel étudiant. « Installez-vous ici, Monsieur Peschel. Monsieur Jean de Frappe va vous présenter, car moi je dois retourner à mon bureau où m'attend beaucoup de travail. »« Oui, oui, je comprends cela, » murmura Peschel. Sur ces mots, j'étais rapidement, il se retira. Le professeur se caressa nerveusement les mains en invitant son élève à se présenter à tour de rôle au nouvel arrivant. « Bonjour, Monsieur Peschel, je me présente, Shanna, parapsychologue. »« Je suis ravi de vous rencontrer, chère dame, » répondit Peschel d'un ton charmeur. André Couturier, programmeur en informatique et psychanalyste à l'Institut Jung à Genève. « Je suis enchanté, monsieur. » Daniel Boulia, spécialiste de la musique numérologique, psychique, cosmique et paradimensionnelle. Je suis heureux de faire votre connaissance, Monsieur Boulia. Carole Papineau, professeur de méditation à l'école ésotérique La Petite Voix. Oh, je suis très honoré, madame, lui répondit Peschel en lui baisant les mains. Je me sens vraiment ridicule de devoir vous présenter mes lettres de créance après avoir entendu des titres aussi prestigieux. Je me présente, Fontaine Denlard Peschel, illustre, clochard illettré. C'est très court, n'est-ce pas? Quoi, vous êtes Peschel? Ce fameux voyageur intemporel demanda Chanard d'une voix excitée. Il n'y a qu'un seul Peschel dans toute l'histoire de l'humanité, chère dame, du moins je le suppose. Me voici donc devant vous, presque ridicule, dans son accoutrement de jeune étudiant. Oh, je vous aurais reconnu habillé n'importe comment, vous savez. L'un de mes amis, qu'on surnomme Pérignac, m'a tellement parlé de vous que j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Savez-vous que vous êtes à la source de mon intérêt pour la parapsychologie? Ah oui, ce cher Pérignac. Je crois qu'il est le seul à connaître, comme le fond de sa poche, le vieux clochard que je suis. D'ailleurs, il ne s'est pas gêné pour mettre par écrit toutes les aventures que je lui ai racontées. Ce bonhomme a été fasciné par mes aventures dans le temps et a promis de les faire connaître afin de me remercier de lui avoir raconté ma vie. C'est vraiment étrange de pouvoir parler personnellement à un personnage que je considérais jusqu'à ce jour issu tout droit de l'imagination fertile de ce cher fabuliste. J'aurai quelques mots à lui dire lorsqu'on se reverra, répondit la dame en souriant d'un air extasié. Vous savez, madame, « je crois tout à fait inutile de vous parler du monde des esprits. Il arrive que des personnes du monde irréel se retrouvent dans l'univers physique. Par exemple, en ce moment précis, je pourrais vous demander si vous êtes une personne réelle ou un personnage de l'une de mes aventures. Tout est vraiment relatif en ce monde. » « Vos paroles me laissent songeuse. J'avoue humblement que de vous avoir vu ici m'apparaît tellement improbable que je dois vous répondre que tout est possible, » lui répondit-elle en riant. Le professeur de Frappe coupa court à un dialogue qui aurait pu s'éterniser en demandant aux élèves de se rasseoir afin de pouvoir terminer l'exposé sur le système neurologique. Peschel se demanda à quoi rimait toute cette mise en scène. Que faisait-il dans une école fréquentée par de tels spécialistes, sinon être encore utilisé par ces puissants maîtres de l'invisible? Il avait cessé de se questionner depuis très longtemps, depuis qu'il l'envoyait en mission à travers le couloir intemporel, lui, l'un des rares humains à pouvoir voyager ainsi avec son corps. Il aurait pourtant aimé qu'on lui révèle enfin le secret de sa longévité. Il regarda autour de lui, tout comme lui, il semblait que les autres élèves ignoraient encore la raison de leur présence dans cette école, ni même quel type de formation ils donnaient. Ils écoutaient le professeur d'un air candide et innocent. Quel était donc le secret de l'outaprant? Son expérience vécue dans des événements mystérieux lui dicta de garder son esprit en éveil coûte que coûte. Par contre, il était loin de se douter de la vérité. Cette fois-ci, il deviendrait les cobayes d'une organisation secrète dont les plans diaboliques risquaient de détruire l'humanité tout entière. Même s'il ne le savait pas encore, Peschel était à l'aube d'une mission d'envergure jamais expérimentée jusqu'à maintenant. Là se trouve la triste vérité. Il pouvait être aux environs de 15 heures lorsque les deux gorilles invitèrent Peschel à les suivre au sous-sol de l'école sous prétexte de lui prendre sa photographie pour une carte d'étudiant. Notre homme en doutait, mais comment refuser d'accompagner d'aussi gentils gardes du corps? L'un des musclés le poussa bientôt dans une salle mystérieuse, où des appareils sophistiqués la meublaient comme dans les films de science-fiction. Le prisonnier se fit piquer traîtreusement dans le cou par un technicien vêtu d'un sarrau blanc et sombra dans une sorte de paralysie passagère. Même si la drogue devait, en principe, le plonger dans un profond sommeil, il faut savoir qu'une étroite liaison mentale entre Pêcher et ses maîtres de l'invisible le protégeait contre les effets normalement obtenus par ce somnifère. Pour s'éviter de se faire administrer une tonne de cette drogue dans ses veines vierges, Pêchel semblait répondre favorablement à celle-ci en pliant les genoux et en se laissant mou comme de la guenille. Il fut traîné jusqu'à un fauteuil qui avait toutes les apparences d'une chaise électrique. Von Reich demanda aussitôt qu'on installe les suces sur le crâne du patient et vint se placer devant un écran d'ordinateur pour ensuite sourire en disant « Cet homme semble n'avoir subi aucune détérioration de son cerveau. C'est important de nous assurer que ces voyages dans l'intemporel ne comportent aucun risque pour les cellules du cerveau. Notre dernière expérience dans ce domaine montra un vieillissement prématuré de notre sujet. Il va falloir que notre prisonnier nous explique pourquoi il en va autrement avec lui. Vous oubliez sans doute celle qui fut pratiquée avec une pièce de monnaie, lui dit le technicien en plaçant d'autres fils sur le corps du cobaye. Il nous fut impossible de la ramener de l'autre dimension. Il y a sûrement quelque chose que vous n'avez pas fait correctement au cours de cette expérience, lui répondit le colonel d'un air hautain. J'ose croire que cet idiot de Pêchel fera mieux que moi pour faire avancer notre projet, lui répondit l'autre. Il le fera, puisqu'il est déjà un véritable spécialiste de tel voyage dans le temps. Si nous pouvons percer ce mystère des mondes parallèles, notre prisonnier nous indiquera comment nous y rendre pour atteindre cette période de l'histoire qui nous intéresse. Est-ce que je lui administre le sérum de vérité pour lui délier la langue? Oui, je n'ai pas l'intention de passer des heures à attendre ses réponses. Pêchel ouvrit les yeux et lui dit en souriant, « Ne comptez pas sur moi pour vous guider dans le couloir intemporel. » Il se réveille, ragea le technicien. « Pour me réveiller, il aurait d'abord fallu m'endormir, mon pauvre monsieur. Je trouve qu'elle est bien intéressante, votre méthode pour m'apprendre à lire et à écrire, Von Reich. » « Calmez-vous, voyons. Si vous répondez à mes questions et qu'elles me paraissent satisfaisantes, je vais vous libérer ensuite. » « Mais vous semblez oublier que je ne suis pas dans votre époque pour répondre à vos questions, mais pour accomplir les missions que me confient mes maîtres de l'invisible. »« Pas vrai. Ils seront donc heureux de devenir mes collaborateurs lorsqu'ils apprendront que leur petit zéro risque gros entre mes mains. » Ils savent déjà où je me trouve et même ce qui me vaut un tel accueil. À votre place, Von Reich, je n'insisterai pas pour les éviter au-delà d'une certaine mesure. Vraiment? Vous croyez préférable que je vous laisse partir sans vous questionner? Et que vont donc dire mes supérieurs s'ils apprennent que je n'ai pas fait mon travail? Vous voyez bien que c'est dans votre intérêt de ne plus m'ennuyer avec vos petits maîtres de l'impossible. Et plus tôt vous répondrez, moins vous risquerez de souffrir la présence de ces petits fils sur votre peau. Ce sont des fils conducteurs de combien de volts? Autant que sur une vraie chaise électrique, mon cher Pêchel. Entre nous, Von Reich, je pourrais vous répondre n'importe quoi. Pas si je vous dis que je détiens des cristaux de Mégator. Vous savez de quoi je veux parler, vous me suivez. Je veux même vous rappeler que vous avez vécu en Atlantide au cours de vos voyages dans le temps. Vous ne me demandez pas où je tiens mes informations? De toujours. Il se trouve que mes supérieurs découvrirent un étrange document pendant la dernière guerre mondiale. Nos troupes plaçaient des mines près des côtes de Dieppe en attendant du renfort allemand. Par un heureux hasard de circonstances, l'un des soldats trouva un petit coffre enfermant un manuscrit écrit en grec. Nos spécialistes, après analyse, en déduisaient qu'il s'agissait d'une écriture très archaïque, datant probablement du début de l'ère helléniste. Quoi qu'il en soit, l'important c'est de savoir que ces écrits furent traduits et qu'ils parlaient de la destruction de Mu, de la fuite de scientifiques atlantes et surtout d'expériences auxquelles ceux-ci se livraient avec du Mégator. L'un de ces savants se nommait Getmar. « Getmahar, répondit Pêchel sans hésiter. Parfait. Il s'appelait Guettemard et non Guettemard. Donc, ce scientifique aurait réussi, me semble-t-il, à fuir l'Atlantide pour ensuite arriver en Grèce. Mais c'est fascinant, lui dit son prisonnier en souriant. Ainsi, ce sacré jeune homme en a fait un bon bout de chemin avant d'arriver en France. Vous dites n'importe quoi pour éviter d'aborder le sujet qui m'intéresse, monsieur le voyageur intemporel. Vous cesserez de sourire lorsque je vous dirai ce que contenait également ce parchemin. Il y est écrit qu'un missionnaire hérita d'un berceau et d'un tube de Mégator. Guettemard nous apporte même sur un plat d'argent le nom de celui-ci. Et qui serait-il selon vous? Non, pas selon moi, mais de ce scientifique qui vous nomme comme le détenteur de ce fameux tube en question. Il précise même l'utilité du Mégator pour des expériences sur un canon à particules. Vous avez vu ce canon lorsque vous viviez en Atlantide, n'est-ce pas? Je n'ai vu aucun canon, mais un genre de laser qui pouvait pratiquer des trous énormes dans la pierre. Je sais aujourd'hui que les Atlantes ne pouvaient déplacer des atomes sans défaire leur symétrie. Nous savons cela, Pinchel, puisque nous possédons justement ce canon en particules. Le seul problème, c'est que ce scientifique n'a laissé aucune instruction sur la manière de s'en servir. Quoi? Vous avez découvert un canon Atlante? C'est impossible, voyons. Je ne peux pas croire que Guettemard puisse avoir été aussi imprudent. Mais voyons, mon cher ami, ne vous excitez pas ainsi. Vous devriez savoir que tous les savants sont naïfs. Ce personnage a cru utile de cacher son invention dans l'une des grottes situées sous l'un des temples du dieu Poséidon, sur l'île de Crète. Bien qu'il n'ait jamais mentionné l'endroit où il l'avait caché, le seul fait que son manuscrit philosophique parle de ce culte, les déductions étaient faciles à faire. Ah oui, vraiment. Poursuivez toujours. Von Reich lui fit un large sourire sarcastique avant de dire « Voyez-vous, mon cher missionnaire, mes supérieurs se sont dit que ce pauvre idiot croirait sans doute que jamais personne n'oserait faire des fouilles par superstition. Ils croyaient sans doute que les hommes rendraient un culte à ce Dieu jusqu'à la fin des temps. Quel est l'orgueil des religieux? » Ok, Von Reich, cessez de vous vanter et venez-en au fait. Justement, j'y arrive, car le fait est que mes supérieurs ont dirigé leurs fouilles sous ces temples et ont découvert ce fameux canon laser primitif dans un coffre recouvert de fils d'araignée. À l'intérieur, ils ont trouvé un tube argenté contenant 200 cristaux brillants. Après analyse, il semblerait que le Mégator soit, en quelque sorte, de l'énergie psychique pure. Est-ce que tout cela est exact, M. Péchel? Pourquoi me posez-vous cette question? Mais voyons, ne jouez pas plus fin avec moi. Je ne vous ai pas fait ces révélations sans but précis. Ah oui, vous voulez peut-être savoir à quelle puissance vous risquez de vous mesurer? Auriez-vous une certaine crainte par hasard, Von Reich? Je ne vous blâme pas. C'est la seule pensée intelligente que j'entrevois depuis un long moment. Ne jouez pas avec le Mégator sans en connaître son véritable pouvoir. Oh non, inutile de vous réjouir trop vite, car je sais que vous essayez de me faire peur. Qui voulez-vous protéger? Ces maîtres venus d'un autre monde, mais lesquels? Je ne crois qu'en ce que je vois, alors convainquez-moi. Je vois que vous refusez de comprendre, Von Reich, d'accord? C'est vous qui l'aurez voulu, même si mes explications risquent d'être assez longues et scientifiques à vos yeux. Ça suffit, M. Péchel, vous m'agacez avec vos allusions perfides sur ma supposée incapacité de comprendre. Je veux tout savoir. Faites en sorte que je réussisse à tout comprendre rapidement, en un seul exposé, car je n'ai pas de temps à perdre. Je suis capable de vous demander des éclaircissements au besoin, n'est-ce pas? Car sinon... Péchel haussa les épaules avant de répondre. « Bon, bon, cessez de grogner avec vos menaces ridicules. Et sachez que si je vous explique tout ça, c'est parce que j'ai la conviction de devoir convaincre un fou encore une fois. Donc je commence mon exposé, suivez-moi, je ne répéterai pas deux fois. Le Mégator est l'énergie psychique des maîtres intemporels. L'intemporel est un autre monde invisible pour nous, mais pas parce qu'il n'existe pas. Mais parce qu'un couloir sépare les deux univers. lâchez votre couloir et parlez-moi du mégator Japa Von Reich. Mais vous ne comprenez pas, sacré nom d'un chien. Le mégator est comme des milliers d'esprits intelligents réunis en un seul grain brillant. Et vous avez dit vous-même que le tube en contient 200, cela ferait toute l'armée. Et alors? Mais voyons, soyez réaliste pour une fois dans votre vie. Vous vous adressez à une science encore inconnue sur Terre. On lui donne parfois le nom de magnétisme universel, mais ce mot est très loin de la réalité. Vous m'endurez tant. Ok, j'explique. Le début de notre univers commença par l'explosion d'une puissance intelligente contenue dans la taille d'une balle de golf, mais ce n'était pas du mégator, mais la première des énergies cosmiques. On lui donna le nom de Dieu et même de pensée créatrice. Wow! Ne m'entraînez pas dans vos histoires de religion, de genèse et de paradis terrestre, peut-être. Vous savez que je ne crois pas en ces sornettes ridicules. Un instant, Von Reich. Laissez-moi à mon tour vous affirmer que votre culture laisse à désirer, car vous mélangez tout. Ne mêlez pas ce besoin qu'a l'homme de croire en quelque chose qu'il ressent intuitivement en lui, au point de suivre certains gourous terrestres, trop souvent appelés également maîtres, et les comparer à ceux du monde intemporel. Ah bon, enfin un humain agnostique, mais qu'ont donc vos supposés maîtres que les nôtres n'ont pas? Le missionnaire secoua tristement la tête. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas mis en cause certains écrits ésotériques dont la sagesse est évidente. C'est de ce que les humains en ont fait selon leur propre interprétation, mais je ne veux pas m'étendre sur ce sujet. Pour en revenir à votre question, je ne peux que vous répondre que le mégator est la concentration de grandes pensées maîtresses universelles et qu'il ne faut pas, encore une fois, confondre la réflexion qui est la somme des images et la comparer à la pensée de concentration profonde qui, elle, se transforme en énergie. Il y a différence entre voir et maîtriser. Je n'ai jamais entendu dire que vos gourous ont réussi à se transformer en cristaux puissants. Avant de vous intéresser à jouer avec l'esprit des grands maîtres cosmiques, demandez-vous donc si vous êtes prêt à en subir les conséquences, comme les Atlantes, car c'est bien là votre intention, n'est-ce pas? Très intéressant, votre mise en garde, mais vous sous-estimez ma capacité de réussir, mon cher voyageur. Désolé de vous décevoir, mais voyez-vous, tout ce que vous m'avez dévoilé ne fait que me confirmer que dans toute puissance, il y a toujours une faille, et celle de vos maîtres, je la connais. Vous semblez oublier que si vos gourous ont voulu cacher deux tubes de mégator dans des endroits différents, c'est qu'ils avaient peur du pouvoir de leur union. Les Atlantes ne l'ont pas compris, mais moi, si. Guetmahar dit clairement que l'architecte de Mu vous a offert un tube de mégator encore plus puissant que celui qui a servi aux expériences du canon à particules. Qu'en avez-vous fait, M. Peychel? Le missionnaire lui fit une charmante grimace avant de lui répondre. Je ne vais sûrement pas vous le remettre, puisque celui-ci est vraiment trop dangereux pour le laisser entre les mains d'un petit malfaisant sans scrupules et sans âme. Je peux cependant vous dire où il se trouve, à moins que vous doutiez de l'existence de l'au-delà. Ne me dites surtout pas qu'il se trouve dans l'au-delà, lui répondit Von Reich. Si vous teniez à conserver le peu de respect que j'ai envers un voyageur intemporel, vous manquez vraiment d'imagination, et si j'étais à votre place, j'inventerais au moins une histoire qui se tienne debout. Allons, vous l'avez caché quelque part sur Terre au cours de l'un de vos voyages dans le temps. Entre nous, vous savez bien que l'au-delà est l'invention de ceux qui fuient dans leurs rêves à cause de leur incapacité d'accepter la réalité. Lui répondit Peychel, je pense que vous vous méprenez grandement en vous imaginant que votre réalité est celle qui doit exister également pour les autres. Je viens de vous dire où se trouve ce tube de mégator, dans l'au-delà, et si vous n'y croyez pas, je perds mon temps à répondre à vos questions. Si je vous laisse crever sur votre chaise, Peychel, allez-vous prétendre que cela valait la peine de m'agacer avec vos mensonges? Mais je vous ai dit la vérité, et vous m'avez traité de menteur. Ce n'est pas ainsi que vous obtiendrez des informations sur ce tube. Vraiment agacé par les propos de son prisonnier, Von Reich replaça sa cravate en disant Parfait. Sortez-moi vos sornettes philosophiques sur l'au-delà, afin que je sache comment vous y envoyer au besoin. Mais vous ne pourriez jamais m'y envoyer à votre gré, puisque le seul moment où je m'y retrouve, c'est lorsque je voyage dans le couloir intemporel. Il se passe alors un phénomène assez étrange. Oui, c'est exactement comme si j'arrivais dans un monde où le temps n'existe plus vraiment. Je peux y passer une seconde et m'imaginer ensuite que plusieurs années se sont écoulées depuis mon départ d'une autre époque. Je m'y repose, j'y rencontre une foule de gens que j'ai connus au cours de mes aventures, et j'y séjourne un long moment sur mon îlot originel. Nous possédons tous un coin particulier dans l'au-delà qui ressemble à ce que nous sommes vraiment sans notre corps physique. Maintenant, pour en venir à ce tube de Mégator, il se trouve sur mon îlot intemporel. Je l'ai soigneusement rangé dans un gros coffre sur roue qui m'a été offert par des Atlantes. Selon vous, je posséderais un îlot dans l'intemporel? Si c'est le cas, Péchel, dites-moi comment m'y rendre, et de là, je vous rendrai visite pour que vous me remettiez ce tube. Ne vous moquez pas de moi, Von Reich. Mais pourquoi pas? C'est vous qui avez dit qu'on possédait tous un îlot dans ce monde, n'est-ce pas? Oui, je l'avoue, et j'ajouterai cependant que vous ne pourriez venir me visiter à moins d'avoir envie de vivre en harmonie avec ces êtres qui peuplent mon île. Ce sont des esprits pacifiques qui ont l'aspect de petits cristaux lumineux. Lorsqu'ils se regroupent, ils forment une grande clarté en vous. Je dois préciser que l'au-delà se trouve en vous, et c'est pour cela que j'ai dit que nous avons tous un îlot dans ce monde spirituel. Ça va faire, j'en ai assez entendu pour comprendre que vous me faites marcher depuis le début. Ce tube, il me le faut, et vous allez me le ramener avant que je décide d'envoyer mes hommes exécuter l'un des élèves pour vous ramener à la raison. Écoutez-moi bien et jugez ensuite si je suis le genre à écouter vos radotages philosophiques. Vous me faites drôlement ricaner avec vos esprits pacifiques et votre îlot illusoire. Les seuls véritables pacifiques que je respecte sont ceux qui reposent dans un cimetière. Par conséquent, si je peux vous donner un conseil, ne cherchez plus à m'endormir de la sorte. Vous êtes vraiment possédé par le pouvoir et obsédé par ce Mégator, Von Reich. Je vous préviens que mes maîtres de l'invisible ne vous laisseront pas détenir un seul grain de celui-ci, puisque vos intentions sont malsaines. Vous me faites penser à ces nazis qui s'imaginaient pouvoir contrôler le monde en suivant les directives d'un malade dangereux. Adolf Hitler était un génie pour avoir compris que le monde entier respirerait seulement le jour où toutes les races inférieures disparaîtraient de la planète, ainsi que toutes les religions. « Mais quel beau menu en perspective !» lui répondit le missionnaire. « Qui sont ces races inférieures ?» Sinon celles qui détiennent le pouvoir monétaire, n'est-ce pas? Et pourquoi les religions, si ce n'est qu'elles détiennent le pouvoir spirituel, n'est-ce pas? Hitler n'était pas un génie pour avoir compris qu'il suffit de contrôler l'argent et la foi des gens pour gouverner le monde. Plusieurs dictateurs le précédèrent dans cette voie, sauf qu'ils ne jouaient pas comme lui à créer des races inférieures pour justifier leurs actes. Baliverne, lui répondit Von Reich. Vous oubliez que toutes les grandes religions se disent les élus de Dieu et considèrent les autres sectes comme des ennemis de la vraie foi. Le nazisme n'est pas une croyance, mais un système qui copie les lois de la nature. C'est la seule purification possible pour la race humaine. C'était la seule pour les nazis, mais les autres peuples avaient également le droit de refuser cet honneur de disparaître pour satisfaire votre folie, Von Reich. Hitler est mort, et son système n'est plus qu'un mauvais cauchemar dans l'histoire de l'humanité. Oh, mais il est vivant en 1939, et son peuple le considère comme un libérateur de la race germanique. Oh, mais je commence à comprendre vos intentions démoniaques, Von Reich. Non, j'espère que vous n'avez pas l'intention de retourner dans cette époque révolue, puisque vous ne pourriez pas la changer. « Bien entendu que nous pourrons la changer lorsque vous nous y conduirez en 1939 avec ce super canon qui accomplira cette purification raciale. »« Mais vous êtes fous. »« Non, aucune nation ennemie ne pourra résister à cette arme Atlante. Puis, comme nous connaissons les traîtres et les véritables ennemis d'Hitler, soyez certains que nous allons les éliminer avant même qu'ils adhèrent à notre parti. » nous utiliserons nos connaissances modernes pour soumettre toutes les nations de la Terre. La bombe atomique ne tombera pas à Hiroshima, mais sur Londres. N'est-ce pas extraordinaire de connaître à l'avance les moindres stratégies militaires de ceux qui provoquèrent la chute du Grand Reich? Écoutez-moi bien, s'il vous reste encore un peu de discernement, vous ne pourrez jamais changer ce qui est déjà fait, puisque le monde d'aujourd'hui n'existerait plus. Soyez logique à votre tour en vous demandant s'il est mentionné quelque part qu'un certain Vladimir von Reich, utilisant un canon à clones en 1939, s'il n'y a rien de tel dans l'histoire, c'est parce que vous ne parviendrez pas à reculer dans le temps dans le but de le modifier. Me preniez-vous pour un sot, M. Pechel? Je ne veux pas modifier l'histoire officielle, mais l'effacer. Il va sans dire que le monde actuel sera différent, puisqu'il sera gouverné par la Grande Allemagne. Toutes les races inférieures n'existeront plus, Hitler vivra très vieux. Personne ne réalisera quel aura été un monde après la défaite allemande, puisque celle-ci n'aura pas lieu. Votre histoire n'existera plus dès que la nôtre se poursuivra après notre victoire en 1940. C'est tout le temps qu'il nous faudra pour gagner cette deuxième guerre mondiale. Ne comptez pas sur moi, von Reich, pour vous conduire dans cette époque, puisque le couloir de l'intemporel ne m'apparaîtra que dans quelques années. Je sais cela, lui répondit son bourreau. Mais au risque de vous contredire, vous allez devoir devancer votre cadran temporel. Nous savons comment pratiquer une faille dans l'intemporel, et cela vous permettra de l'emprunter, pour aller nous chercher ce petit tube de Mégatar. Et si vous êtes en mesure de vous promener dans l'intemporel, von Reich, je me demande bien pourquoi vous refusez d'utiliser. Mais nous l'avons déjà expérimenté, mon cher ami, sans pour autant parvenir à ramener notre voyageur sans incident de parcours. L'un d'eux est revenu en poussière, et un autre avait tellement vieilli au cours des quelques minutes qu'il y passa, que nous avons préféré attendre votre avis avant de l'utiliser de nouveau. Ah oui, eh bien je vais vous le donner sans détour, cet avis, mon cher von Reich. Personne ne peut voyager dans ce couloir sans l'autorisation de mes maîtres de l'invisible. Ce sont eux qui me guident et qui me protègent lorsque je les traverse pour me rendre dans une autre époque. Même si je voulais l'emprunter à leur insu, il m'arriverait sans doute la même chose que vos cobayes. Pas vrai. Alors je vous conseille de leur parler au plus vite de votre intention d'y voyager avant votre temps. Ce joli canon va pratiquer une brèche devant vous, et vous y serez jeté, mon cher ami. Oh, c'est cela que vous appelez un couloir d'intemporel? Voyons, c'est un trou dans l'au-delà que vous allez faire avec votre truc. Vous me dites n'importe quoi pour ne pas devoir me rapporter ce tube d'échelle. Vous allez m'obéir, et si vous décidez de me fausser compagnie en traversant dans une autre époque, vous aurez la mort des autres élèves de cette école sur votre conscience. Le prisonnier se fit conduire dans une galerie souterraine, où des techniciens préparaient un étrange canon dont l'aspect général faisait penser à un télescope muni d'une lentille taillée dans un cristal. Celui-ci projetait différents rayons de couleur sur l'un des murs de la pièce. Le trépied de l'arme reposait dans un bassin d'eau. Lorsque Pechel fut près du canon, un technicien introduisit prudemment des grains de Mégatar dans la tête réceptrice du cristal et se mit aussitôt à tourner rapidement sur lui-même. Les couleurs se réunirent pour créer un seul jet de lumière. Ce puissant laser désintégra rapidement la matière constituée dans ce mur, et on vit ensuite apparaître une faille entre les deux dimensions. En effet, von Reich était loin de se douter qu'il venait simplement de pratiquer une brèche entre notre monde visible et celui d'une autre dimension, simplement appelée l'au-delà. Pechel lui cria de désespoir. « Vous venez de blesser le monde des esprits et le nôtre. Cette plaie va s'infecter et le mal va se répandre partout dans l'univers, puisque nos mondes sont parallèles et complémentaires. »« Taisez-vous, et n'oubliez pas ce que je vous ai demandé, » lui répondit froidement l'ancien colonel SS. Le pauvre homme fut jeté tête première dans cette faille, qui ressemblait à un petit hublot par lequel on pouvait voir les étoiles de l'autre dimension. Pechel se considérait exactement comme un microbe étranger dans une blessure. Il craignait évidemment de se faire attaquer par les anticorps de l'autre monde. Soudain, un vent violent le ramena dans la pièce, suivi par quatre sphères brillantes qui le protégeaient par leur douce lumière. ses forces, obéissait au maître de l'invisible, afin de mettre un terme à cette expérience. Le canon Atlante fut attiré dans le trou, comme une poussière dans un aspirateur, et ensuite, ce fut le tour de Von Reich et de ses gorilles à passer dans l'au-delà. Puis, une voix s'adressa à Péchel en ces termes. « Cette faille risque de faire périr votre monde si elle n'est pas refermée avant la nuit des morts. Les esprits hantent la terre cette nuit-là, lorsqu'une autre brèche s'ouvre une seule fois par année entre nos deux dimensions. S'ils découvrent une autre entrée, sois persuadé qu'ils en profiteront pour envahir le monde des corps physiques. Ces esprits seront attirés par le mal qui entoure cette plaie. Ils sont encore trop primitifs pour vivre dans nos deux mondes et cherchent donc une issue pour les envahir. Comment dois-je m'y prendre pour refermer cette faille? Demanda l'homme sans hésiter. Nous ne pouvons répondre à ta question, lui répondit l'une des boules lumineuses en tournant autour de lui. C'est la première fois que les hommes pratiquent un trou aussi grand entre nos univers parallèles. Les sphères retournèrent dans la faille et disparurent rapidement dans ce ciel étoilé. Péchel demeura un moment fort troublé par les avertissements de ces êtres lumineux. Il vit ensuite tous les meubles et appareils sophistiqués de cette pièce se faire gober par ce trou. Il recula rapidement pour éviter de se trouver dans le champ d'attraction qui entourait cette plaie rougie par l'infection. En effet, on aurait dit que cette blessure était celle d'un corps universel qui ne pouvait vivre au contact de notre monde. C'était comme si la planète Terre s'empoisonnait lentement par cette plaie et qu'elle affectait malheureusement une autre dimension inconnue, mais réelle. Péchel remonta en trombe jusqu'à cette classe où le professeur de frappe ne tarda pas à recevoir une solide droite sur le menton, sous le regard étonné des élèves. L'enseignant bascula par-dessus son bureau et s'évanouit dans un coin du local, sans même pouvoir se défendre contre ce solide gaillard à l'allure pacifique. « Demeurez calme, leur dit le boxeur amateur, après s'être frotté le poing endolori. Ces monstres ont voulu m'assassiner, et Von Reich s'était même mis en tête de se servir de vous pour m'obliger à lui obéir. J'ai bien peur que nous nous sommes tous laissés berner par cette maudite organisation de l'outre-Atlant. « Expliquez-vous, voyons, lui demanda André Couturier en fixant le pauvre professeur étendu sur le plancher. Est-ce dans vos manières de frapper les gens avant d'écouter leur défense? » Alors Péchel s'expliqua brièvement et les élèves durent admettre qu'il avait bien fait de ne prendre aucun risque avec ce membre de l'organisation nazie. André fut le premier à se lever pour chercher de quoi ligoter le prisonnier. Daniel Bouliard arracha le fil d'un projecteur pour lui offrir comme corde. Depuis le début, Shanna pressentait que quelque chose n'allait pas avec ce Von Reich, mais par prudence, elle faisait semblant d'apprécier sa compagnie et celle des faux professeurs. Elle dit nerveusement à Péchel, « Nous allons vous suivre dans ce souterrain pour tenter de refermer cette faille avec l'aide de Dieu. »« Que faisons-nous de frappe ?» demanda André en vérifiant la solidité du nœud que venait de faire Daniel. « Je pense qu'il en a pour un petit moment dans le coma, » répondit le clochard en éclipsant un sourire. « S'il est bien ligoté, il ne risque pas de s'enfuir afin d'avertir ses supérieurs de l'échec de leur plan. »« Ils nous ont bien eu, » murmura André en secouant tristement la tête. « Von Reich prétendait travailler sur un projet qui m'intéressait depuis des années, mais faute d'argent, j'avais abandonné mes recherches sur la mise au point d'un programme informatique entièrement contrôlé par une intelligence artificielle. » « Cela m'apprendra à voir trop grand. » Et moi alors, rageait Daniel Bouliard, entraînant le professeur par les pieds, on devait m'aider à perfectionner la qualité sonore de mon studio d'enregistrement en me fournissant des consoles ultra-modernes. Quelle blague! Mais soyons tout de même positifs. Si nous voulons refermer cette faille pratiquée par un canon Atlante, jamais j'en aurais voulu croire avant aujourd'hui que les Atlantes n'étaient pas un mythe. « Il a raison, » dit Carole, en aidant Daniel à faire asseoir le prisonnier dans un coin. « Il faut demeurer positif, puisque quelque chose me dit que nous sommes en train de vivre une expérience unique au monde. C'est à nous d'être solidaires et de mettre nos talents en commun. Monsieur Péchel, ce trou est une porte ouverte entre deux mondes parallèles et surtout un point neutre par lequel je pourrai communiquer avec les êtres de l'autre dimension. » « J'apprécie votre aide et votre courage, mes amis, » répondit Péchel en se grattant sa barbiche de chèvre. « Il va falloir faire vite, puisque les supérieurs de Von Reich vont bientôt répliquer lorsqu'ils n'auront plus de nouvelles de lui. Attendez-vous à voir plusieurs gorilles armés jusqu'aux dents nous descendre comme des mouches s'ils nous trouvent ici. »